Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon.
Parmi la dizaine d'historiens spécialisés sur l'exil des républicains espagnols en France, Denis Péchanski fait référence. Il est directeur de recherche au CNRS et a publié un ouvrage sur Vichy et la France des camps. Il est président du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes. Denis Péchanski était présent à Montpellier le 27 octobre 2008 pour une conférence sur la place des républicains espagnols dans la résistance en France. C'était à l'occasion du Festival international du film méditerranéen. Il y confiait que son père a été membre des brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Témoignage.
Ce qui me frappe dans la résistance des Espagnols en France, à la différence des autres populations immigrées engagées aussi très fortement dans la résistance, où le fil rouge, pour comprendre, c'était la tension entre la volonté d'intégration dans la société française et l'extériorité. Pour les Espagnols, là, on est dans l'extériorité, c'est-à-dire aussi bien dans la stigmatisation que dans le combat qui est mené, c'est-à-dire que pour les Espagnols qui ont franchi la frontière en février 39, l'objectif, c'est la reconquête. La reconquête de l'Espagne. Ça passe par le combat anti-nazi, mais l'objectif, c'est la reconquête contre Franco. Donc on n'est pas du tout dans un processus d'intégration dans la société française. Ce n'est pas la question qui est posée pour ces immigrés, ces réfugiés, ces exilés de février 39. La question, c'est le retour. Le recensement de 1936 donnait déjà l'immigration espagnole, donc dite économique, comme étant au troisième rang des immigrations étrangères en France, et dans le peloton des trois grandes immigrations, les Espagnols étaient 250 000. Ça veut dire qu'on a déjà une présence espagnole en France très forte, et puis ça donne aussi une idée de ce que signifie l'arrivée de 500 000 personnes, enfin 475 000 exactement, en février 1939. 475 000 personnes vont passer le Pertus, pour moitié des civils, pour moitié des militaires. Retenez déjà que sur ces 475 000 personnes, 350 000 vont être enfermées dans des camps. 350 000. J'insiste sur ces camps parce que c'est là que se construit la résistance. Que bien entendu, les grands partis qui vont structurer la résistance espagnole en France vont se réadapter et ça ne va pas être simple. En mai 40, il reste très peu d'Espagnols dans les camps d'internement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été intégrés comme prestataires pour la défense nationale dans les CTE, les compagnies de travailleurs étrangers. Ils formaient d'ailleurs la majorité de ces compagnies de travailleurs étrangers. Les GTE, les groupements de travailleurs étrangers, sont mis en place fin septembre 1940 par le régime de Vichy en zone sud pour les populations étrangères en surnombre dans l'économie nationale. Donc vous voyez bien qu'on est dans une toute autre logique, on est une logique de mise à l'écart et qui plus est, une mise à l'écart qui renvoie à une autre conception, évidemment, de la société. Poids des contraintes encore, évidemment, la logique allemande et la logique franquiste, avec, côté franquiste, de très fortes pressions de l'ambassadeur Lecoleca, qui va constamment faire pression pour, et même fournir des listes en disant « voilà ceux qu'il faut absolument contrôler, voilà ceux que nous voulons récupérer ». Voilà ceux qu'il faut emprisonner, enfin, etc., etc. Donc ça, on en a des traces, évidemment, dans les archives. Et puis surtout, la logique allemande. Et là, la logique allemande, elle est importante à retenir parce qu'elle est tout à fait spécifique pour les populations espagnoles. les Espagnols qui ont été faits prisonniers de guerre constituent la seule catégorie qui a été, enfin, qui a subi un sort particulier de tous les prisonniers de guerre qui ont été pris en France. Donc voilà, c'était des Espagnols qui étaient sur le front, qui ont été qui ont été faits capturer par les Allemands, qui ont été envoyés dans les camps de prisonniers de guerre. Et là, on a retiré ce que les Allemands appelaient les rouges, les Espagnols rouges, et on les a transférés à Mauthausen. Entre 9 et 10 000, enfin autour de 9 000, 5 000 morts. Ils se retrouvent à Mauthausen entre décembre 40 et janvier 41. Et ils vont rester le temps de survivre, pour ceux qui ont survécu. Ça, c'est quelque chose de très important, et ça s'est même aussi traduit en France par une affaire qui était peu connue jusqu'il y a quelque temps, c'est-à-dire on a pris 950 personnes en Charente, là, hommes, femmes, enfants, les femmes, on les a renvoyées en Espagne, et les hommes, on les a transférés directement à Mauthausen. C'était en 1940. Une logique sécuritaire qui va se doubler d'une logique économique. Les Allemands veulent contrôler les Espagnols, mais en même temps, ils veulent les exploiter économiquement. Et donc, ils veulent exploiter la main-d'œuvre, ce qui fait qu'ils veulent les envoyer à l'organisation TOT. Les chiffres sont spectaculaires. Dans les GTE, il y avait 43 000, dont 39 000 Espagnols. Et dont la grande majorité s'est retrouvée sur les chantiers de l'Atlantique, pour construire les structures de protection en cas de débarquement anglo-saxon. Donc la première période de 40 à la fin 42 est marquée, pour aller vite, par l'éclatement des structures politiques et par une efficacité dramatique de la répression. Alors, quelles sont les organisations qui sont concernées? D'abord, elles sont marquées, c'est la première chose qu'il faut retenir, par la division et par les oppositions internes. C'est-à-dire que non seulement elles sont divisées entre eux, mais à l'intérieur même de chacune des composantes, il y a de très fortes tensions. Les seuls qui ont pu se restructurer comme parti ou comme mouvement, c'était les communistes, les anarchistes et les poumistes, les trotskistes. Mais on imagine le poids des fractures héritées de la guerre d'Espagne. Entre anarchistes et communistes, l'ambiance, enfin, vous connaissez. Bon, ça va se retrouver jusque dans les camps. D'abord dans le mouvement libertaire. Après la mort de Mariano Vázquez en juin 39, c'est Jem Esgleas, je suis pseudo-germinal, qui était le compagnon de quelqu'un qui est peut-être plus connu à la limite que Esgleas, qui est Federica Monseni. Il faut savoir que dans ce mouvement libertaire, à peu près, tout le comité directeur de ce mouvement libertaire se trouvait au camp du Vernet. Je vous rappelle que la colonne d'Urruti est entrée directement au Vernet, enfin a été envoyée au Vernet, pardon, dans sa globalité, et ça va créer de fortes tensions. Alors, il y avait donc cette forte présence des anarchistes. Et il y avait aussi une forte présence communiste. Arrive début 1941, un ordre de Vichy disant « Nous avons décidé d'envoyer les meneurs en Afrique du Nord. » Donc voici la liste de ceux que nous considérons comme les meneurs. Réaction du chef de camp du Vernet, relayée par le préfet, disant « Écoutez, c'est bien gentil votre histoire, mais nous on a... » le chef de camp dit « Je gère mon camp en m'appuyant sur les anarchistes » qui détestent les communistes, donc je leur donne un certain nombre de responsabilités pour l'organisation du camp interne, que je contrôle évidemment, comme ça, ils me surveillent les communistes, et je n'ai pas trop à m'en occuper pas avec mes gardiens. C'est terrible, hein. Ailleurs, vous aurez la même chose à l'envers, hein, communistes, trotskistes ou communistes et anarchistes, mais... Pour vous dire, bon, alors il dit, ben, m'enlevez pas mes anarchistes. Alors vous pouvez me prendre des communistes, ça me gêne pas, mais pas mes anarchistes. Ils me contrôlent mon camp et tout marche très bien. Bon, c'est terrible. Ce que je veux signifier par là, c'est que c'est vous montrer l'ampleur des fractures qui traversaient c'est ceux qui, en théorie, s'étaient battus ensemble contre Franco. À retenir simplement de cette période, et là j'irai très vite, c'est le poids de la répression, donc la période 40, fin 42. C'est terrible, parce que jamais je n'ai vu dans les archives de signes de population aussi surveillée que celle des exilés de février 39. On a des rapports constants de la police, et vous avez régulièrement des recensements, et vous avez régulièrement des perquisitions, des arrestations, des surveillances. Les activités des services de police contre les menées communistes et antinationales pendant l'année 1942 dans les milieux espagnols, fermez les guillemets. 911 arrestations, 610 internements, 1429 perquisitions et 177 expulsions. J'ai pas de chiffre pour 41. Or, en 41, c'est là que disparaissent le POUM et le mouvement libertaire du fait de la répression. C'est d'abord février 41 où les principaux dirigeants des deux tendances du POUM dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient réfugiés à Montauban, sont arrêtés. Il y a un procès avec des lourdes peines de prison. Et puis fin 41, novembre-décembre 41, c'est la même chose qui se passe avec le mouvement libertaire, avec l'arrestation d'Esgleas, mais également des responsables des amis de Londres, et puis le transfert en Afrique du Nord de dirigeants qui pouvaient se trouver encore au Vernet, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc là, vraiment, arrestation très dure. Je rajouterais en zone nord, parce que là, c'est essentiellement zone sud. En zone nord, vous avez la première ébauche 41-42 hein, de la lutte armée. Et ça n'est pas par hasard, si c'est un Espagnol, Conrado Miret Must, qui est à la tête de ce qu'on appelle l'OSMOI, c'est-à-dire l'Organisation spéciale de la manœuvre immigrée, donc des premiers combattants de la lutte armée à l'été 41. Et il va être arrêté très rapidement. Il y aura aussi l'arrestation, encore plus dramatique, à la fin 42 de Dolazo. Dolazo était un des membres du triangle de direction des FTP-MOI de la région parisienne. Donc des francs-tireurs partisans MOI de la région parisienne, donc de toute la résistance étrangère. Et il va armer et il va se faire arrêter à la fin 1942. Et on va le rendre responsable dans la clandestinité, parce qu'il va parler, parce qu'il a été déporté, il a été mis à l'écart, parce qu'on l'a considéré comme responsable d'une chute dont il n'était pas responsable. Et on l'a mis à l'écart, et d'ailleurs, après la libération, il va se suicider. Côté communiste, on a aussi trois vagues d'arrestations. Là, c'est toute la direction parisienne qui va être arrêtée, et du fait de quelqu'un qui était un infiltré, quoi. Un indique de la 3e section des renseignements généraux. Et là, je m'arrête là-dessus parce que c'est très intéressant pour comprendre aussi la façon dont fonctionnait la police. Chez les Espagnols, ceux qui étaient à Paris se sont trouvés non pas face aux brigades spéciales des renseignements généraux, mais face à la 3e section des renseignements généraux, qui était infiltrée par la résistance. Je veux simplement vous dire une anecdote. Vous avez la première vague d'arrestation, il y a l'indique qui vient et qui dit à la 3e section des renseignements généraux, chargée de la surveillance des étrangers, voilà, ils sont en train de se reconstituer à Issy-les-Moulineaux. Donc, faut agir. Pendant 3 semaines, les flics ne vont pas bouger. Ils vont essayer d'enterrer l'affaire. Puis le gars, il revient et il dit, mais attendez, je vous ai donné des noms, là, puis rien ne bouge, qu'est-ce qui se passe, là? Et là, comme on dit dans la police, il faut faire des crânes. Parce qu'être résistant dans la police, si jamais on n'arrête personne, bien, c'est fini. Donc ils sont obligés d'arrêter. Ils sont obligés d'y aller, parce que sinon ils se faisaient dénoncer. Arrive la deuxième filature. Exactement le même problème. Arrive la troisième filature. Troisième dénonciation, toujours le même indique. Et là, c'est remonté jusqu'à la direction de la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le numéro 2, la troisième section des renseignements généraux, est allé avec un de ses petits camarades. Parce que là, ça commençait à faire beaucoup. Il allait voir le responsable espagnol, de la résistance espagnole à Paris, un des responsables qu'il connaissait bien, parce qu'il l'avait déjà repéré. L'autre ne savait pas qu'il était repéré, mais l'autre l'avait repéré. Il allait le voir. Flic, hein. Il allait le voir, il lui a dit, écoutez, là, ça commence à bien faire. On a un indice, ça fait la troisième chute. Maintenant, il n'y aura plus personne si ça continue. Alors, voilà son nom, faites ce que vous avez à faire. » Vous imaginez, dans la police, ce que signifie de donner un indique. Troisième partie, donc à partir de la fin 42, avec comme vecteur de cette résistance, l'UNE, donc l'Union nationale de tous les Espagnols, et un mode d'action ou un mode de structuration qui sera privilégié, qui est le maquis. Et ça sera la direction politique des guérilleros. Alors on aura bien sûr des structures à côté. Vous avez un grand maquis qui ne dépend pas de l'UNE, qui est essentiellement un maquis libertaire, au barrage de l'Aigle. Et puis surtout, quelqu'un qui est un des héros de la résistance espagnole en France, Francisco Ponzan Vidal, qui est un militant de la CNT, donc un militant libertaire, qui va être arrêté une première fois, puis une deuxième fois, en avril 1943, va être assassiné en août 1944, et qui sera à l'origine d'un réseau d'évasion, qui sera un des principaux réseaux d'évasion, en liaison avec les services français clandestins et Londres. La dominante, vous l'avez compris, c'est le combat à partir des maquis, avec, bien sûr, une double perspective. Certes, on a le combat en France contre le nazisme, mais avec la reconquête en perspective. On n'est pas tourné vers l'Est, on est tourné vers le Sud. La route de Madrid passe par la défaite d'Hitler. C'est pas l'inverse. L'inverse, c'était avant. Il fallait y penser avant. Il fallait que les démocraties s'y mettent. De penser que battre Hitler, la route pour battre Hitler, passait par l'Espagne. Donc on va avoir des unités de guérilleros dans tout le Sud-Ouest, surtout en Ariège, Haute-Pyrénées, Tarn, Haute-Garonne, et des maquis qui seront des maquis de protection pour ces structures de guérilleros. Il faut savoir que les premiers chiffres montrent des très faibles effectifs. Hein. On n'est pas du tout dans les dizaines de milliers d'Espagnols ou en général de guérilleros ou même de maquisards à ce moment-là. Enfin on est dans des faibles effectifs, mais ça va évidemment croître à partir de juin 1944. Et on peut penser qu'à la fin août 1944, et c'est énorme, on compte à peu près 10 000 hommes chez ces guérilleros. À partir de l'été 44, évidemment, on est dans un tout nouveau contexte avec des objectifs stratégiques qui sont très clairs. À partir de mai 44, l'UNE va réorganiser son bras armé qui était directement représenté dans les états-majors FFI. Alors dans l'action, bien sûr, et là je ne développerai pas, mais ils ont joué un rôle très important dans la libération de départements entiers comme l'Ariège, dans les Basses-Pyrénées, dans le Gers, dans les PO, Pyrénées-Orientales, et puis à Montpellier. Il y a eu bien sûr la tentative avortée de reconquête, c'est l'affaire du Val d'Aran. On est à la fin octobre 1944, l'UNE décide de lancer la reconquête de l'Espagne, ça semblait logique. Franco allié des Allemands. Normalement, les alliés, dans la foulée, devaient continuer. Sauf que là, c'est l'échec. Mais l'échec, c'est pas un échec militaire, mais l'échec fondamental. C'est parce que les alliés ont refusé, derrière, de soutenir cette offensive du Val d'Aran. Et donc, c'est un échec politique, d'abord, avant d'être un échec militaire. L'UNE n'a pas pu obtenir le soutien des alliés, y compris les soviétiques, dans cette volonté de reconquête. Et cette forme de neutralisation, en quelque sorte, a été la défaite politique de l'UNE. Et a eu des conséquences sur la mémoire, mais en même temps, il y a une force de l'engagement espagnol dans la résistance française qui est unique, certainement, dans les annales et dans les composantes étrangères engagées dans la résistance.
Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations avec Denis Péchanski, historien. Musique originale, Guillaume Séguron. Un documentaire de Jean-Paul Gambier et Bruce Torrente, Radio Clapas. Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon, une série coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon, direction de la culture et du patrimoine.